Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur GeoTrek, une suite logicielle libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Avec nos invités, donc Camille Monchicourt, responsable du pôle système d'information Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes, et Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Et je vais d'ailleurs passer la parole à Jean-Christophe parce que Jean-Christophe va animer ce sujet long. Donc Jean-Christophe, c'est à toi, mais je reste connecté, je vous écoute et j'interviendrai éventuellement s'il y a besoin. À vous.
Oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose pendant une petite heure une randonnée dans l'univers des logiciels libres développés par le secteur public avec Camille et Amandine. Et pour commencer, et avant d'en dire un petit peu plus sur GeoTrek, je vous propose de vous présenter brièvement. On commence par toi Camille, si tu veux bien.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi je suis Camille Monchicourt, je suis responsable du système d'information au Parc National des Écrins. Donc on est au niveau du système d'information, on est une petite équipe de 4 personnes et donc on s'occupe de tout ce qui est informatique, base de données, cartographie, les sites web. Et j'anime aussi la communauté GeoTrek. Donc tout ça depuis le siège du Parc National des Écrins qui est situé à Gap dans les Hautes-Alpes. Voilà, Amandine.
Eh bien, du coup, Amandine Salle, donc moi, je suis administratrice du système d'information au Parc National des Cévennes. Donc, c'est un peu équivalent à ce qu'il y a dans les écrins. Donc, pareil, on est une petite équipe où on gère un peu tout ce qui est projet informatique et principalement autour des données, dont la donnée de randonnée et de valorisation du territoire. Ouais, donc, nous, on se situe à Florac, en Lozère.
Et donc Jean-Christophe Becquet, je suis vice-président de l'April et en fait j'ai plusieurs liens avec GeoTrek. Le premier c'est que depuis l'âge de 12 ans je suis randonneur et passionné de montagne et de nature. Le deuxième c'est que je vis dans les Alpes-de-Haute-Provence, territoire qui a choisi GeoTrek pour promouvoir ses sentiers itinéraires. Et bien sûr, dans le cadre de mon activité, de mon engagement à l'April, je suis passionné par le logiciel libre et notamment, comme je le disais en introduction, par le logiciel libre dans le secteur public. Et donc, pour commencer, j'ai envie de vous demander, ça sert à quoi GeoTrek ? Pourquoi avoir développé ce logiciel ?
Oui, alors GeoTrek, c'est un logiciel qui permet de gérer tout ce qui concerne les sentiers d'un territoire. Alors, il y a toute la partie aménagement, travaux, signalétique, entretien. Et puis, c'est aussi une application, un portail web et une application mobile qui permettent de valoriser et rendre accessible au public des informations sur les randonnées d'un territoire et tous les patrimoines qu'on va pouvoir découvrir le long de ces randonnées. Voilà l'essentiel de ce que fait le logiciel. Alors, il commence à avoir quelques années, on y reviendra, donc son périmètre s'étend, mais ça c'est son fonctionnement principal.
Ok, merci. Amandine, tu souhaites ajouter quelque chose?
Non, c'est un bon résumé.
Ok, et du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, Amandine, Camille vient de dire que c'est un logiciel qui a déjà quelques années, tu veux nous dire comment a démarré l'histoire, d'où vient GeoTrek et comment ça commence?
Donc GeoTrek a démarré il y a de très nombreuses années. Donc c'était un projet en fait qui a été mené par le Parc National du Mercantour avec le Parc National Alpi-Maritimé et le Parc National des Écrins. Donc où ils souhaitaient se doter d'un outil de gestion de leurs sentiers et également de valorisation des itinéraires de randonnée. Donc c'est un projet qui est né, je ne veux pas me tromper Camille, c'est 2012.
Oui, c'est ça, on a commencé en 2010, 2011, 2012, on a vraiment été dans la phase opérationnelle à partir de 2012.
Voilà, c'est un projet qui est quand même très ancien et qui progressivement en fait a été amendé par les différents besoins. Et donc nous au niveau du Parc National des Cévennes, on s'en est emparé réellement en 2014, on a commencé la réflexion, et 2015 pour proposer une offre de randonnée mais également plus globalement toute l'offre touristique autour sur le Parc National des Cévennes.
Oui, ce que je peux ajouter, c'est que donc on a parlé de nos équipes respectives qui travaillons sur les parties vraiment système d'information. mais donc dans un parc national, il y a entre 60 et 90 agents, dont une partie est sur le siège, une partie est au siège et une partie travaille sur le terrain, avec des missions diverses de surveillance, de protection de l'environnement, de connaissance de la biodiversité, mais aussi donc tout ce qui concerne l'entretien des sentiers, puisque c'est une activité assez importante. La randonnée, c'est une des manières privilégiées de parcourir et de découvrir un parc national. Et donc, c'est une mission assez importante pour les parcs nationaux parmi d'autres. Et donc, on avait ce besoin, donc, de mieux gérer l'information relative à tous ces sentiers, à toute l'activité autour des sentiers, mais aussi de mieux valoriser au grand public l'information et les randonnées à découvrir sur un territoire. Donc, on a décidé de concevoir ce logiciel et de faire un appel d'offres pour faire réaliser les développements par un prestataire.
Donc un logiciel effectivement qui est relativement transversal, hein, avec à la fois des aspects très techniques sur la gestion et l'entretien des sentiers, un aspect plus promotion, communication et animation du territoire à travers la promotion donc des randonnées pour le grand public. Et 2010, vous commencez à réfléchir à ce logiciel et vous décidez de le faire développer, penser à un appel d'offres pour développer ce logiciel sous licence libre. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Camille, pourquoi ce choix de faire développer GeoTrek sous licence libre?
Oui, alors, bon, il y a deux raisons principales. La première, c'est que, donc, comme Amandine l'évoquait, on est parti à deux parcs nationaux, enfin même trois, parce qu'on avait un parc italien aussi qui était associé au projet, mais principalement donc le parc national des Écrins et du Mercantour. Mais la thématique des sentiers et des randonnées, elle est assez commune à tous les parcs nationaux. Donc on avait souhaité que le logiciel soit sous licence libre pour qu'il puisse potentiellement être utilisé par les autres parcs nationaux. Donc ça, c'était pour faciliter l'utilisation par d'autres parcs nationaux. Donc ça, c'était un côté très pragmatique et concret. Et après, il y avait aussi une volonté un peu plus globale, qui est que ben, nous, on est des utilisateurs de logiciels libres depuis pas mal d'années. On a construit, on s'est engagé assez fortement dans la migration de pas mal d'outils vers des logiciels libres, donc pour tout ce qui est traitement de texte, navigateur web, notre site internet, nos outils de cartographie, puis des outils informatiques. Donc on est beaucoup consommateurs, on bénéficie d'un peu tous les investissements qu'ont pu faire les uns et les autres avant nous. Et ça faisait déjà quelques temps qu'on se demandait comment nous, on pourrait contribuer à notre tour. Alors on a réfléchi à des systèmes, des dons, etc. Mais pour des administrations publiques, c'est pas toujours évident. Et puis c'est des choses un petit peu ponctuelles et finalement, on ne semblait pas forcément très... et plus constructive et en plus assez lourde à mettre en œuvre. Donc on s'est dit peut-être qu'une manière de faire, ce serait à notre tour de faire en sorte que les logiciels qu'on développe soient des logiciels libres et qu'ils puissent bénéficier à d'autres. Donc ça, c'était une volonté un peu plus générale. Pour autant, on n'avait ni vraiment de maîtrise ou de connaissance de comment faire, ni une volonté d'aller très loin. Voilà, on s'était dit que si quelques parcs nationaux utilisent l'outil, ce serait déjà un bon point. Et donc on a fait appel à une prestataire avec ce souhait donc que la solution retenue s'appuie sur des logiciels libres, mais aussi sur un logiciel libre. Et le prestataire qui a été retenu, qui est un prestataire toulousain qui s'appelle Machina Corpus et qui est spécialisé dans le développement de logiciels libres, nous a accompagnés justement sur toutes les bonnes pratiques qu'on a découvert petit à petit, brique par brique, de comment on met réellement et comment on construit et on diffuse et on publie un logiciel libre avec toutes les questions de licence, de forge pour diffuser le code source, mais aussi les bonnes pratiques, la documentation, etc. Donc petit à petit, on a appris et puis on s'est réapproprié un petit peu toutes ces pratiques qu'on découvrait.
Merci. Alors, question de Fred sur le chat. Quelle est la licence libre qui a été choisie pour GeoTrek?
Alors, de mémoire, c'est une licence BSD. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Mais...
Non, c'est ça, ouais. Bon, alors, on s'est posé beaucoup de questions et en même temps, on a aussi des fois un peu mis de côté ces sujets qui peuvent tourner et retourner sans fin. Est-ce qu'on fait les bons choix, les mauvais choix? On se repose encore ces questions. Mais oui, on avait pris une licence la plus ouverte possible sous conseil du prestataire qui disait déjà bah, qu'on va utiliser des briques qui étaient sous cette licence, et puis aussi pour en avoir un usage le plus large possible. Voilà, on s'est reposé quelques fois la question, d'autres ont des avis différents, nous on n'a pas d'avis tranché, ça pourrait être amené à évoluer pour d'autres projets, des fois on prend des GPL V3, mais voilà, on n'a pas, là aussi on a vraiment appris, et au fur et à mesure, avec parfois des choix un petit peu difficiles à faire, et ça en fait partie aussi, mais pour l'instant on est plutôt content d'avoir une licence la plus ouverte possible, même si c'est de temps en temps rediscuté.
Ok, merci. Après, demande la parole.
Oui, juste pour préciser que sur ces aspects de licence, on consacrera un jour un sujet long sur ces licences libres. Alors, Camille a parlé de la licence BSD et aussi de GPL. La licence BSD, c'est ce qu'on appelle une licence permissive qui permet effectivement une réutilisation large, y compris dans les logiciels ensuite privateurs. Alors que les licences de type GPL, c'est ce qu'on appelle des gauches d'auteur, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de réciprocité. Mais je vous annonce qu'on fera un sujet long sur ce sujet en 2021 pour entrer dans le détail. Voilà, c'était juste un point d'intervention rapide.
Ok.
Voilà, donc si je résume en tout cas ton explication, Camille, il y avait à la fois donc le souhait à travers la licence libre de pouvoir mutualiser, partager des développements sur un logiciel à plusieurs parcs, et la volonté aussi de contribuer au commun des logiciels libres dans la mesure où vous en étiez surtout utilisateur et pas encore contributeur. Et du coup, j'ai envie de vous demander, donc on a dit, voilà, GeoTrek a presque 10 ans. Quel résultat aujourd'hui, on en est où avec GeoTrek en termes de fonctionnalité du logiciel, de maturité du logiciel et puis d'adoption surtout? Camille?
Oui, alors finalement, la dynamique a pris assez vite et assez fort. Et elle est montée en puissance. On a rapidement des parcs régionaux qui se sont appropriés aussi l'outil, qui ont des contextes différents des parcs nationaux, mais aussi pas mal de points communs, et ce même intérêt et volonté de valoriser la randonnée et tous les patrimoines de leur territoire. Donc certains se sont appropriés et sont rentrés dans l'aventure. Les parcs nationaux, petit à petit, la majorité ont rejoint le projet, avec certains encore très récemment. Donc après, les pas de temps, les contextes, les calendriers sont différents selon les territoires. Et puis, plus récemment, des départements, il y a une quinzaine de départements, je crois qu'il y a une trentaine de parcs régionaux, des communautés de communes, des offices de tourisme, des comités du tourisme, de la rando, enfin, voilà, tous les acteurs qui pouvaient être intéressés de près ou de loin sur la randonnée se sont retrouvés dans cet outil et sont rentrés dans l'aventure. Donc, c'est allé vite, c'est allé fort. Aujourd'hui, on est un peu plus sans structure à l'utiliser en France, donc on s'attendait pas du tout à ça. Mais c'est passé par des étapes de communication, de valorisation. On avait présenté le projet parce que le publier uniquement aurait pas suffi. Mais en tout cas, voilà, ça a pris bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au début. Donc ça aussi, on a dû construire et apprendre et réagir un peu au fur et à mesure de la dynamique de l'outil.
Alors, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, on comprend bien ce que ces types de structures ont à faire avec un logiciel de gestion des randonnées, mais peut-être pour nos auditeurs qui sont moins au fait des compétences des territoires et des collectivités, Amandine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi des départements s'intéressent à GeoTrek?
Eh bien, je pense qu'ils s'intéressent à GeoTrek pour deux aspects. Donc il y a un, la valorisation, puisque le département a aussi une mission de valorisation de son territoire, donc de promouvoir notamment les itinéraires de randonnée. Mais il y a également une compétence qui est la compétence justement des sentiers qui est dévolue au département. Donc eux également, ils ont toute cette problématique de gestion de la signalétique, de répartition entre les différents opérateurs, de faire les droits de passage. Donc pour eux, il y a aussi un enjeu en termes de gestion de leur linéaire, enfin des sentiers de leur département.
Ok, donc effectivement, ça fait partie des missions des départements, la gestion des sentiers itinéraires. Et du coup, eux utilisent peut-être plus particulièrement les fonctionnalités liées à l'entretien et à la maintenance du balisage des sentiers.
Il y a ça, mais l'aspect valorisation est également aussi une mission du département. Donc du coup voilà, okay. C'est un peu comme un parc national, finalement. Avec peut-être pas autant de missions de valorisation comme on l'imagine. Puisqu'ils n'ont pas forcément un territoire d'exception, on va dire, comme ça peut être mis en avant sur les parcs nationaux. Mais c'est aussi important pour les conseils départementaux, tout ce qui est lié aux les enjeux touristiques.
Vas-y Camille.
Oui, non, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les départements, ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient des enjeux et des attentes fortes en termes de gestion, de structuration, de tout ce qui concerne les sentiers. Ils ont une mission assez forte là-dessus, puis ils étaient peu ou pas outillés, donc ils ont trouvé un peu en Géotrek un outil pour pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne la randonnée sur leur territoire et se l'approprier. Et souvent, ils l'ont utilisé dans un contexte de collaboration avec les différents échelons qu'il y a dans un département, les communautés de communes, les offices de tourisme. Donc ils ont trouvé un peu dans Géotrek une réponse à un besoin ou une attente qu'ils avaient, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Donc après, bon, bien sûr, il y a tout le côté humain, organisationnel, structurel, etc. Mais en tout cas, on leur a apporté l'outil sans vraiment du tout le vouloir, sans le précalculer. Et donc, ils s'y sont rapidement retrouvés dans cet outil. Ouais.
Du coup, en termes de jeu d'acteurs, ça doit donner des scénarios intéressants parce qu'effectivement, un sentier, il est à la fois, il peut être dans un parc naturel, il peut être en même temps, enfin, il est en même temps dans un département, et donc du coup, des acteurs se retrouvent peut-être à travers Géotrek à collaborer plus ou à travailler ensemble.
Oui, souvent c'était des structures qui avaient des données assez éclatées, avec comme on connaît dans beaucoup de thématiques, des fichiers un peu dans tous les sens, peu finalement d'outils réels de partage, avec quand même une dimension forte, parce qu'après on peut avoir des outils en ligne, génériques, de différents types, où on va retrouver des informations, mais là on va aussi vraiment sur le côté métier, etc. Donc ça leur a permis de poser, de remettre à plat un peu déjà leurs données, et de pouvoir commencer à s'ouvrir à d'autres et collaborer. Et aller échanger et collaborer avec une connaissance un peu plus fine et une structuration de leurs données plus opérationnelle. Donc ouais, ça crée des belles collaborations au niveau de pas mal de territoires aussi. C'est ça qui est assez riche aussi et assez encourageant dans ce projet. C'est un outil, mais c'est aussi tout ce qui se décline derrière, toutes les dynamiques, tous les projets que ça entraîne, qui est presque aussi riche, voire encore plus motivant à continuer dans ce sens.
Ouais, moi je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement c'est un projet qui démarre avec trois parcs au départ qui ont un besoin commun, qui décident de le mutualiser, qui ont l'idée de le faire sous licence libre, et tu l'as dit, aujourd'hui plus d'une centaine de réutilisateurs. Ça me fait penser à un autre logiciel, la suite de logiciel métier Open Mairie pour les collectivités, qui est né dans la petite mairie d'Arles en région PACA, et puis qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs centaines de mairies partout en France, mais même ailleurs en Europe, qui a été traduit dans 5 langues de la Commission européenne. Voilà, ça fait partie des effets quand on développe sous licence libre, c'est que le projet peut rallier des contributeurs et prendre de l'ampleur. Alors peut-être avant de prendre une petite pause musicale, le résultat est impressionnant, mais ça s'est sans doute passé sans difficulté. Et du coup, j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour faire aboutir ce logiciel Géotrek. Amandine, peut-être des difficultés qui t'ont frappé pendant le développement de ce logiciel, pendant tes années à participer à cette communauté?
Alors du coup, moi, j'étais pas du tout là à la genèse du projet, mais voilà. Donc je suis arrivé après, justement, en voulant rajouter des fonctionnalités, en voulant réadapter l'outil à notre situation locale, etc. Et je pense qu'une des plus grandes difficultés, entre guillemets, justement, dans ce contexte-là, et en plus de marché public où on est tous des structures assez éclatées, avec des petites enveloppes, c'est justement de garder cette cohérence et de pas que un besoin spécifique prenne le pas sur sur l'architecture et donc je pense que la difficulté principale pour moi elle est là, c'est vraiment réussir tout le temps à généraliser le besoin et à dire ah ce besoin c'est mon besoin mais il peut servir à d'autres et comment est-ce que je vais le traduire pour justement qu'il puisse servir à d'autres et pas qu'il soit uniquement dévolu à ma situation personnelle.
Effectivement, donc une difficulté de gouvernance et de pilotage en fait des évolutions du logiciel. Galine, sur les
difficultés, mais enfin voilà, je veux juste dire, du coup, je pose ça comme étant une difficulté. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un exercice qui est très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, comme difficulté.
Oui, tout à fait. Oui, ça permet en fait de monter en qualité sur le logiciel. Ça demande un effort, mais à la fin, ça fait un logiciel qui est meilleur parce que en quelque sorte, il est le plus petit commun dénominateur entre les besoins de tous les acteurs qu'il a rassemblés. Camille, sur les difficultés pendant ces presque 10 années de développement de GeoTrek.
Ouais, il y a cet élément assez central qu'a évoqué Amandine, c'est tout cet équilibre, pouvoir bénéficier d'un logiciel que d'autres ont fait, mais sans le dénaturer, mais en même temps l'enrichir, parce qu'il faut pas que ça reste non plus sous une cloche, faut pas non plus tomber dans des systèmes de gouvernance trop centralisés où à chaque fois qu'on veut rajouter un bouton, il faut faire 15 comités et garder quand même une certaine dynamique et que les structures puissent s'en emparer. Et avoir une dynamique qui leur est propre. Donc cet équilibre, il est toujours assez fin, mais il est très intéressant parce que il nécessite des mécanismes d'animation de la définition des besoins, de réflexion technique. Donc le ou les prestataires ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Nous, en tant qu'animateurs plus de la communauté des utilisateurs, on essaie aussi de faire du lien entre les différents projets, leurs besoins. Sans non plus de vouloir centraliser tous les processus de décision pour laisser. Hein. Donc il y a cet équilibre qui est assez fin, mais c'est assez riche finalement aussi de se confronter à d'autres contextes, d'autres visions, et des fois ça apporte des réponses à des choses qu'on pouvait ne pas voir ou voir différemment. Donc c'est vraiment un équilibre riche mais assez fin à voir. Et après dans les autres difficultés qu'on a pu avoir, c'est que cette démarche, elle est très volontaire. On a essayé, on l'a fait, mais de manière empirique, ça c'est un point, mais aussi souvent avec un engagement assez fort. Et c'est pas toujours évident. Bon, au départ, de convaincre des décideurs, de convaincre des partenaires, parce que le logiciel libre, quand on a commencé, il avait pas forcément la bonne image qu'il a aujourd'hui. Donc déjà, au début, on était assez suspicieux par rapport à notre projet, voire un peu sceptique dans les différents réseaux. Bon, heureusement, ça a pris et puis ça a fait ses preuves. Donc maintenant, c'est plutôt l'inverse et tant mieux. Mais au début, ça a été un peu difficile d'avoir de la crédibilité. Et puis après, c'est maintenir la dynamique, garder une certaine générosité, comme l'a évoqué Amandine, même si on enrichit en permanence l'outil. Et le fait que donc nos financements et nos projets soient assez éclatés, c'est riche, c'est dynamique, mais du coup c'est assez dispersé, donc faire du lien entre tout ça, mais aussi se poser à certains moments pour arriver à remettre à plat des aspects plus techniques, plus complexes, faire de la maintenance technique, ça a été un élément complexe. On a le projet grossissant, on a réussi maintenant à un peu mieux grouper des financements et arriver à lever des sommes un peu plus conséquentes pour pouvoir faire de la maintenance un peu plus opérationnelle, mais là aussi les entreprises privées ont dû investir aussi à leur tour, parce que nous, en tant qu'établissement public, on n'avait pas toujours la capacité ou la volonté, c'est un peu des deux, à financer des trucs de maintenance technique moins sexy que des nouvelles fonctionnalités.
Eh bien, donc, comment on assure la pérennité et l'évolution de ce logiciel, quels sont les ingrédients secrets d'animation de la communauté, c'est les questions que je vous poserai après la pause musicale. À tout de suite.
Alors nous allons effectivement faire une pause musicale. Tout à l'heure je vous disais que nous allions consacrer en 2021 une émission en licence libre. En fait on en a déjà fait une, j'avais un petit peu oublié, mais on n'était pas rentré dans vraiment tous les détails. Mais vous pouvez écouter le podcast, donc c'est l'émission du 7 mai 2019, l'émission 24, hein, sur causecommune.fm ou sur april.org. Mais nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Ghibli Wave par Blue Navy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
'Écouter Ghibli Wave par Blue Navy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet long avec nos invités du jour. Le sujet long porte sur GeoTrek, suite logicielle libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Nos invités Camille Monchico, responsable du pôle système d'information au Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek. Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes. Et Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, qui anime l'échange. Donc je vous repasse la parole. J'ai précisé, parce que je crois qu'on n'a pas encore dit, que le site de GeoTrek, c'est geotrek.fr. Jean-Christophe, c'est à toi.
Merci. Donc, on a parlé de la naissance de GeoTrek au début des années 2010, du choix de l'adoption d'une licence libre, la licence BSD, et l'adoption aujourd'hui, 10 ans après, de ce logiciel par plus d'une centaine de structures, parcs nationaux, régionaux, départements, etc. On a commencé à parler avant la pause des difficultés qui se posent lorsque on développe un tel logiciel, notamment faire travailler ensemble une telle diversité d'acteurs. Et du coup, j'ai envie de vous demander, Camille, Amandine, quels sont les ingrédients secrets pour animer une communauté autour d'un logiciel qui rassemble plus d'une centaine d'acteurs aussi divers que ceux qui ont été cités. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous avez mis en place et qui fonctionne pour faire vivre ce logiciel, Camille?
Ouais, alors c'est, je pense qu'il y a des éléments un peu fondamentaux là qui ont été mis en place dès l'origine, c'est-à-dire on était 2 parcs nationaux au départ, mais on n'était pas 10, ni 20, ni 50. Et le fait qu'on soit 2, ça nous a obligés déjà dès le début à penser nos petits besoins spécifiques du parc des écrins ou du Mercantour de manière un peu générique, de se confronter à un autre contexte, mais sans rentrer non plus dans des systèmes où on doit se mettre à 20 autour d'une table et de discuter de chaque truc. Donc c'était finalement assez, assez opérationnel, parce qu'on n'était que deux, mais on n'était pas tout seul, et du coup, ça nous a obligé à prendre du recul. Et voilà, et du coup, le fait que ça fonctionne pour deux, mais finalement, on se rend compte que ça fonctionne pour 100 aujourd'hui, et ça a pu être généralisé à d'autres structures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire après, même quand le projet grandissait. C'est à chaque fois qu'on a des besoins, éviter de les faire tout seul dans son coin, dans son tunnel, mais sans non plus rentrer dans les processus où on se met à 50 autour d'une table et on décide de tout, et on a des gros processus de décision centralisés. Donc ce modèle décentralisé, avec des petits groupes qui avancent sur un sujet, qui informe beaucoup le collectif. Donc on n'est pas dans les gros processus de décision, mais par contre beaucoup d'informations, ça c'est vraiment la clé, je pense, du projet. Hein. On en serait resté juste là si on avait fait notre truc et qu'on avait déposé sur un... sur une forge, au-delà de la question de la licence, de la forge, quelle forge, etc., qui sont des débats intéressants, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui a vraiment fait le, qu'on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire aller voir les gens, faire, de la, faire un site internet, aller dans des rencontres des différents acteurs et à la rando pour présenter le projet. Et ça, ça a été les éléments bien, bien plus importants, je pense, que le simple fait de les mettre sur une forge et de mettre une licence, même si c'était des éléments aussi importants. Donc faire des petits groupes et puis valoriser, animer et toujours partir du besoin et des petits collectifs qui rendent compte aux au collectifs, qui sont libres d'avancer, mais ouais, qui n'ont qui pas non plus une lourdeur décisionnelle trop forte. Et qui sont,
Merci Camille. Donc juste une précision de vocabulaire, une forge en fait c'est un endroit en général sur un serveur, ça ressemble un peu à un site, et c'est un endroit en fait où on dépose le code source du logiciel et qui fournit tout un tas d'outils pour collaborer, pour contribuer autour du développement du logiciel, comme la possibilité d'aller modifier le code, signaler des bugs ou proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc du coup, tu as parlé de cet aspect essentiel de la communication en fait entre les acteurs au sein du projet. D'une manière très concrète et pratique, quels sont les outils de communication que vous utilisez dans la communauté GeoTrek? Liste de diffusion, wiki, Camille?
Ouais, alors bon, mais c'est parti d'outils plutôt techniques, donc les dépôts GitHub en l'occurrence, pour avoir accès à la documentation, pour échanger, remonter des bugs, discuter de fonctionnalités, donc plutôt avec les personnes les plus impliquées techniquement. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi élargir, donc avoir une liste de diffusion plus générale pour les acteurs au sens large, qui sont pas que techniques, et impliquer aussi toutes les personnes plus liées à la thématique de la randonnée, des sentiers, etc. Et puis rapidement, en fait, on a voulu se rencontrer physiquement, parce que nous, on était un peu un nœud au niveau de... un nœud central, mais les gens passaient beaucoup par nous et on a voulu qu'on se connaisse plus généralement. Donc on a organisé à partir de 2016 des rencontres et ça c'est un outil très demandé qui a vraiment permis de passer à la vitesse supérieure et de vraiment donner un élément fondateur à cette communauté qui n'était que virtuelle et beaucoup passant par nous ou le prestataire. Donc du coup le fait de se rencontrer, ça a vraiment assis le projet, ça l'a pérennisé, ça a permis aux gens de se connaître, d'échanger. Donc ce côté humain, rencontre, il a été essentiel, il est très demandé. Alors c'est des fois un peu lourd à organiser chaque année, donc c'est des fois tous les deux ans. Mais en tout cas, c'est essentiel, les gens ils sont attachés. Puis après des petits groupes de travail, un comité de pilotage, mais qui reste assez consultatif, participatif, qui ne veut pas centralisateur ni décideur, mais qui est plutôt là pour poursuivre un peu le projet dans les grandes lignes, organiser des rencontres, voilà, faire de l'information, mais surtout beaucoup de petits groupes de travail par projet, par thématique, selon les contextes, qui se font et qui se défont au rythme des projets, qui collaborent et qui font beaucoup d'informations au collectif. Ça, ouais, c'est...
Alors effectivement, si je peux juste apporter un rapide témoignage, j'ai eu la chance d'intervenir dans l'une des rencontres GeoTrek et moi j'avais été frappé effectivement sur le temps d'une journée hein, par l'énergie, la dynamique et la convivialité des participants. Voilà, il y avait quasiment une centaine de personnes réunies autour de GeoTrek, avec des mini-présentations, des ateliers ensuite plus pointus sur des aspects, sur des questions techniques ou thématiques autour du logiciel. Et donc, voilà, je trouve que c'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans le monde du logiciel libre. Donc pendant de nombreuses années, ont eu lieu chaque année les rencontres mondiales du logiciel libre, qui était un événement dans lequel on se retrouvait pendant une semaine sur un campus pour discuter de logiciels libres et présenter les dernières évolutions et échanger, partager. Et je pense effectivement que c'est vraiment un aspect très important dans le développement d'un logiciel libre. Et donc, du coup, si on se projette un petit peu dans l'avenir, Amandine, selon toi, les prochains défis pour GeoTrek, les prochains pas?
Donc, là, actuellement, quand même, il faut savoir qu'on est on a lancé un gros marché pour bien faire évoluer le logiciel. Donc, déjà, ça, c'est le pas en cours qu'il faut qu'on passe. Et après, effectivement, je pense que le plus important, c'est cet aspect communauté, relationnel, mettre en cohérence les gens et pour qu'ils discutent de leurs besoins et voilà, et que les choses elles, soient spontanément pour décentraliser au maximum l'organisation, je dirais.
Camille, ta vision sur les trois prochaines années pour GeoTrek ?
Non, mais c'est pas...
Pardon.
Non, mais c'est pas ça, c'est moins important. Enfin, c'est pas moins important, mais justement, c'est aussi en termes d'échange de données entre GeoTrek. C'est que pour l'instant, les GeoTrek sont très figés, ils sont, on va dire, isolés. Et on a commencé à réfléchir à mettre en place des passerelles, etc. Donc, il y a eu le cas, c'était 0.5. Mais voilà, du coup, je pense que ça, c'est aussi un gros pas en avant à faire, de permettre plus facilement les échanges de données. Et justement pour les problèmes de structures qui peuvent être sur des territoires qui se chevauchent.
Excellent. Ça va me permettre d'introduire la prochaine question. Mais juste avant, Camille, tu souhaites ajouter quelque chose sur les prochains défis à relever pour GeoTrek ?
C'est vrai que c'est un projet qui est très décentralisé, où on s'appuie beaucoup sur les dynamiques des uns et des autres, et c'est la force. Mais du coup, comme disait Amandine, on a les enjeux de mieux partager les données entre nous aussi, des fois de recentraliser les données. Voilà, on a différents déjà outils et moyens de diffuser les données vers d'autres outils ou d'aller se connecter à d'autres outils. Et c'est quelque chose qu'on veut améliorer et renforcer. Et puis après, je dirais qu'on est passé par plusieurs étapes au départ, comme disait, pas mal de scepticisme, c'est quoi ce projet un peu utopique, de toute façon ça marchera pas. Après, ça a pris, donc les gens ont commencé à regarder ça avec un peu plus d'intérêt, mais ils avaient quand même pas mal de questions sur la gouvernance, le fait que ça soit pas centralisé, c'était quoi les comités, enfin voilà, beaucoup d'interrogations sur ce truc qui est un petit peu mouvant, un peu incontrôlé, incontrôlable. Et puis finalement, cette gouvernance qui reste présente mais assez ouverte et collaborative, elle a fait ses preuves, elle s'inscrit dans le temps. On a réussi malgré tout à consolider, à des fois grouper nos financements, etc. Donc ça fait ses forces et ça fait ses preuves petit à petit. Donc il y a beaucoup moins d'interrogations, de scepticisme. La confiance est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est bien, du fait du projet, mais aussi un peu de l'image des logiciels libres qui s'est améliorée. Malgré tout, voilà, ça reste quelque chose à consolider, il faut toujours mettre beaucoup d'énergie pour trouver des moyens, des ressources qui sont jamais trop prévues dans les projets. Nos structures, elles sont pas non plus très familières avec ce mode de fonctionnement. Nous, on a peu ou pas de ressources vraiment dédiées à ça. Donc voilà, on est toujours quand même dans cette énergie pour pérenniser et garantir que ce fonctionnement va continuer, parce que c'est pas un fonctionnement qui est bien ancré dans nos fonctionnements de base, et la collaboration entre les structures, qu'elles soient publiques ou privées, mais dans notre cas public, elle est beaucoup évoquée, mais finalement elle n'est pas si évidente que ça. Et donc voilà, ça nécessite pas mal d'engagement et d'énergie qu'il faut maintenir. Et trouver, je pense, des solutions pour demain pour mieux pérenniser le modèle de fonctionnement et de collaboration, mais aussi des aspects plus techniques, de maintenance, de vraiment pérenniser le projet sur ses composantes techniques et aussi organisationnelles, quoi.
Et Effectivement. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que cette émission contribuera à faire connaître votre démarche de développement de logiciels libres. J'ai mis dans la page de l'émission, dans les références, le lien également vers une vidéo, un enregistrement d'une présentation que tu as faite, Camille, dans le cadre des ateliers Blue Hat avec Bastien Guéry, donc à destination plutôt d'acteurs de l'administration et des collectivités, dans laquelle tu expliques de manière assez détaillée cette démarche de développement de logiciels libres et d'animation de la communauté. Alors, Amandine m'a tendu la perche tout à l'heure en parlant de l'ouverture des Geotrek pour leur permettre de communiquer entre eux. Une question qui brûle les lèvres des auditeurs sur le chat, c'est la question des contenus des portails Geotrek. Donc, itinéraire de randonnée, on pense à la SFRP et aux débats qu'il y a pu avoir la Fédération française de randonnée pédestre et les débats qu'il y a pu avoir avec la Fédération française de randonnée pédestre et la communauté OpenStreetMap sur les droits sur les sentiers, les itinéraires. Deux mots là-dessus, Camille ?
Oui, alors mais c'est un logiciel libre, donc on le partage entre nous. Après, chacun le décline un peu comme il veut, comme il peut, avec ses contextes, ses enjeux. Donc on n'a pas on met pas de contraintes ni d'obligation à faire quoi que ce soit. Après, c'est nous, au-delà du côté logiciel libre, on essaye d'avancer sur aussi la question des données. Et finalement, c'est même presque ce qui nous intéresse le plus au-delà du logiciel. Donc on essaye que tout ça soit au service de la donnée, que déjà l'outil permette de mieux la structurer, etc., mais ensuite de mieux la diffuser et de la partager et potentiellement de l'ouvrir. Donc nous, on est assez engagés et convaincus par tout ça. On fait en sorte que l'outil le facilite, le permette. On fait aussi pas mal de communication, d'échanges où on montre que ce que ça permet et plutôt les aspects positifs. Donc on échange et à chaque rencontre Geotrek, d'ailleurs, c'est souvent un sujet qui est évoqué. Après, voilà, chacun avance à son rythme, avec son contexte, avec ses enjeux qui peuvent parfois être économiques. Nous, on a la chance de ne pas avoir d'enjeux économiques forts autour des données, donc c'est plus simple pour nous. Voilà, après, ça fait partie des échanges et nous, on est là pour faciliter les choses. Après, libre à chacun de s'en emparer dans son contexte avec son pas de temps et son calendrier. Mais en tout cas, ça avance. Nous, pour la FFRP plus particulièrement, ça nous a permis de mieux collaborer sur les contenus, les échanges au niveau de nos territoires. En tout cas, de poser aussi les choses sur la table et d'avoir des contenus, encore une fois, mieux structurés et prêts à être partagés. Ensuite, les aspects politiques, ils appartiennent à chacun. En tout cas, nous, on fait en sorte que ça soit le plus simple possible, le plus encouragé possible. On fait aussi de la pédagogie en sens. Après, tout le monde avance à son rythme.
Effectivement, hein, je pense qu'en tout cas, le fait que l'outil soit facilitateur pour ouvrir les données, c'est une contribution réelle à l'évolution des structures vers l'open data, parce que l'obstacle technique, c'est souvent un des premiers qui est invoqué par les collectivités, par les administrations, pour ne pas ouvrir leurs données, c'est-à-dire ça prend du temps, ça demande du travail. Et donc, voilà, je me souviens de rencontres autour de l'open data où on disait si dans le logiciel il y a un bouton open data qui permet en quelques clics d'exporter les données dans un format ouvert et de les mettre à disposition sur un portail open data, c'est déjà un premier pas, en tout cas c'est un frein qui est levé.
Il y a des questions en effet techniques et politiques, tout le retour de ça, nous on essaye de lever les questions techniques et après de faire de la
sensibilisation.
Voilà, de la sensibilisation après.
Absolument. Mais je pense que le sujet avance en partie grâce à vous et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de saluer à quel point le Parc national des écrins a été exemplaire dans sa démarche d'open data, puisque vous avez publié plusieurs jeux de données majeurs sur les sentiers itinéraires, mais aussi sur une autre application, un autre logiciel que vous développez, Camille, qui est GeoNature, qui est un logiciel d'observation faunistique et floristique, et le Parc des Écrins avait publié un énorme jeu de données de 800 000 observations de naturalistes Voilà, et donc du coup, effectivement, c'est en donnant l'exemple comme cela qu'on peut faire bouger les lignes, je pense. Une autre question, pardon.
Oui, non, c'est ça. Ça permet de démystifier les choses, et par des cas concrets, on essaye, voilà, à notre niveau, on s'est rendu compte que quand on fait quelque chose, si ça marche, finalement, ça permet de dédiaboliser, de démystifier, puis ça inspire ou pas, mais en tout cas, c'est cette démarche qu'on essaye d'avoir.
Merci. Une dernière question de Christian sur le chat, c'est la question, puisque vous êtes convaincu par les outils libres, pensez-vous reproduire la démarche en adoptant des outils libres dans comme support de développement? Donc on a parlé de GitHub, les réseaux sociaux alternatifs, le fait de déposer le code, de basculer le code de GeoTrack sur une forge libre. Est-ce que ça fait partie des évolutions qui sont envisagées?
Ouais, ben on s'est posé des questions aussi à ce niveau. Après, il y a le pragmatisme et l'historique aussi des fois qui joue. On a pris nos habitudes, etc., sur GitHub, alors quand Microsoft est arrivé, on s'est tous posé des grandes questions. On en a pas mal discuté, mais voilà, on n'a pas réglé tous les sujets. Celui-là, ça en fait partie. On a des outils aussi de communication. On a essayé de privilégier des outils ouverts, mais on n'est pas parfait. GitHub, on ne sait pas. On a évoqué le sujet, mais bon, ça nécessite aussi d'ouvrir des chantiers qu'on n'a pas ouverts par manque aussi de temps et de priorité. Mais ouais, ça fait partie des interrogations qu'on a, mais qu'on n'a pas priorisé pour l'instant.
Ok, merci. Donc on approche de la fin du temps imparti. Amandine, quelques mots de conclusion, des choses sur lesquelles tu souhaiterais insister sur GeoTrack?
Non, c'est très bien, voilà. Non, mais voilà, justement, c'est une belle expérience. Et quand même, après, malgré tout, je tiens quand même à signaler le rôle de Camille là-dedans et sur le fait que c'est quelqu'un qui est très réactif, et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir un animateur et quelqu'un qui est très impliqué dans l'animation, je pense que c'est fondamental. Et ça, c'est je pense que la réussite de GeoTrack, elle est particulièrement liée à ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé. Mais voilà, sur les aspects humains, et voilà, ça, faut pas le négliger, en fait.
Merci, bravo à tous les deux. Camille, il nous reste 30 secondes. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose?
C'est une démarche qui a été assez empirique, un peu avec pas mal de scepticisme au début. Et puis voilà, on a eu une démarche, on a essayé d'être ouvert, de donner de la place aux différents acteurs. Et on voit que les gens sont en attente de tout ça. S'y retrouvent, et à chaque fois les retours qu'on a des utilisateurs ou des structures, c'est que ça fait du bien de voir un projet comme ça à politique, où on peut arriver avec son contexte et trouver une place et pouvoir échanger sur plein d'aspects. Donc ça fait vraiment du bien de voir ça. Après, voilà, les questions qu'on se pose, c'est comment passer à la vitesse supérieure, et toi t'es engagé là-dedans, t'as parlé de Bastien, on essaye d'avancer, mais on voit que voilà, il va falloir passer la vitesse supérieure si on veut monter une vraie marche. Et on voit que la mutualisation là, avec un outil comme ça, parce qu'on a 100 structures qui partagent un outil qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, elle est conséquente. Le bon utilisation des fonds publics, on pense que, et on nous a souvent salué que c'était un exemple vraiment réussi à leur sens. Maintenant, voilà, comment on confirme tout ça et on passe à la vitesse supérieure, je pense que c'est notre enjeu, mais ça passe aussi par des moyens, comme évoquait Amandine. L'animation, on l'a faite un peu de manière volontaire, mais nos structures sont peu ou mal taillées pour ça, et donc voilà, c'est un de nos enjeux, je pense, pour passer à l'étape suivante.
Et ben, en tout cas, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Plein de dynamique autour de GeoTrack, une meilleure prise en compte par vos structures respectives de ce travail énorme que constitue l'animation d'une communauté de développement de logiciels libres. En tout cas, continuez à être pionnier, à être exemplaire dans vos démarches, à essaimer GeoTrack un petit peu partout. Et puis peut-être qu'on se reparlera dans quelques mois autour de Géonature, autre logiciel libre dont tu t'occupes également, Camille. Encore un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, et je crois qu'on va devoir rendre l'antenne pour la prochaine pause musicale.
Eh ben, merci pour l'invitation et bon plaisir d'une prochaine fois.
Merci.
Eh bien, merci. Donc, c'était Camille Monchicot, responsable du pôle système d'information au Parc national des Écrins, animateur du projet Géotrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information Parc national des Cévennes, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Donc, on parlait de Géotrek, un suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Je rappelle le site web geotrek.fr, et on se donne rendez-vous en 2021 quand vous serez passé à la vitesse supérieure pour nous faire un point d'étape. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée.